8h20 sur France Culture, c'est la rentrée. On a voulu démarrer cette nouvelle saison en nous arrêtant sur les grands dossiers économiques qui attendent le gouvernement. L'été a été très agité sur les marchés financiers. On reviendra sur cette crise complexe. C'est ce qu'on a appelé le choc des subprimes. Autre choc, mais celui-là, on le veut positif. Il est censé ramener la confiance. C'est en tout cas l'intention du président de la République après la réunion la semaine dernière à l'Élysée qui était consacrée au pouvoir d'achat et à la croissance. On en parle ce matin avec l'économiste Patrick Artus. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et bienvenue, directeur de la recherche et des études chez Natixis, membre du conseil d'analyse économique. On parle de rentrée politique, de rentrée scolaire, de rentrée littéraire, de rentrée médiatique aussi. Ça a un sens de parler de rentrée économique ?
Oh, ben, ça a un sens parce que on va préparer le budget de l'année prochaine, ne serait-ce que pour ça. C'est un sens aussi parce qu'effectivement, il faut, je crois, absolument comprendre ce qui se passe dans le monde de la finance, ce qui s'est passé pendant cet été, pour essayer d'éviter que ça se reproduise. Malheureusement, cette crise n'est pas la première, on en parlera tout à l'heure. C'est la répétition de la crise financière à laquelle nous avons droit maintenant tous les 3 ou 4 ans depuis le début des années 90. Donc il serait temps de réagir. Cette répétition est insupportable.
On va évidemment y revenir. Un mot sur ce qui se passe dans l'Hexagone. Le pouvoir d'achat, la croissance, deux priorités du gouvernement. Et pourtant, les indicateurs de la croissance ne sont pas au beau fixe. 0,3% de croissance au premier trimestre seulement. C'est jugé décevant. Et d'un autre côté, le pouvoir d'achat qui serait menacé par l'augmentation des prix. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation-là, Patrick Artus ?
Alors, il n'y a pas d'augmentation des prix. On a des taux d'inflation très très bas. Effectivement, le Premier ministre en parlait hier soir à la télévision. Il y a quelques tensions sur quelques morceaux de l'indice des prix, en particulier sur l'alimentation. Mais ça, c'est un phénomène mondial. Mais nous sommes toujours protégés complètement de l'inflation par la globalisation. On continue à importer de plus en plus des produits fabriqués dans les pays émergents qui arrivent en France 2, 3 ou 4 fois moins cher que les produits domestiques. Donc tant qu'on voit que les Chinois, que les autres continuent à gagner des parts de marché, le problème n'est pas l'inflation. Alors sur la croissance, je crois aussi qu'il faut se dire que notre problème, c'est un énorme problème de perte de parts de marché. Donc c'est pas vraiment un problème de pouvoir d'achat ou de demande. Que ce soit sur les marchés internationaux ou sur le marché domestique, la production française recule, hein, et ça de façon régulière depuis le début de cette décennie. Donc ce qu'il faut absolument guérir, c'est ça. Ça serait aujourd'hui assez peu efficace de stimuler la demande ou le pouvoir d'achat parce qu'on ferait produire les autres. Hein. Donc tant que ce ne sont pas nos entreprises en France qui produisent lorsqu'on leur demande des biens supplémentaires aussi bien les Français que le reste du monde, effectivement il y a un vrai problème, et donc c'est un problème de type d'offre et pas un problème de demande.
Politique de l'offre, qu'est-ce que ça veut dire? On dit souvent que le gouvernement aujourd'hui privilégierait une politique de la consommation. Un petit mot, la piqûre de rappel pédagogique du matin pour avoir les idées claires.
À nouveau, y a deux causes possibles d'une croissance faible. Ça, c'est l'insuffisance des revenus. Donc c'est typiquement ce qu'on a vu très longtemps en Allemagne, qui est en train de s'améliorer tout doucement. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui au Japon. Quand il n'y a pas du tout de revenus distribués aux salariés, évidemment, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de croissance. C'est pas le cas en France. Toute cette perte de part de marché de la France et cette croissance trop faible de la France depuis de 2000-2001, en même temps, est accompagnée d'une demande intérieure qui a augmenté assez vite. Hein. Et donc, notre problème, c'est pas de stimuler les revenus. Bien sûr, il faut pas non plus qu'ils chutent, mais c'est d'essayer à nouveau d'identifier très précisément les facteurs qui font que quand on distribue des revenus, on fabrique des importations. Ou quand les pays émergents se décident à acheter beaucoup plus de biens, ce sont pas des produits français qu'ils achètent. Sur l'année écoulée, le commerce international a cru d'à peu près 8%. Les exportations de l'Allemagne ont cru d'à peu près 10%, celles de la France d'à peu près 3%. Et donc on voit qu'on ne profite pas du monde quand il va bien. Et
c'est pourquoi ça. Cette exception française ?
Ah ben là, on n'est plus du tout dans la macroéconomie. Je crois qu'on est dans les institutions. Et ça, c'est quelque chose qui... D'ailleurs, on réunit encore des commissions pour comprendre pourquoi il n'y a pas de croissance. Mais je crois que tout est quand même sur la table depuis longtemps, depuis le rapport de Michel Canzu il y a quelques années.
Dernière en date, la commission Attali, dont on vient de connaître la composition, oui. Et qui est chargée d'examiner les conditions d'une libération de la croissance.
Oui, mais enfin bon, on le sait, quoi, je veux dire. Donc c'est bien de faire des commissions, mais à ce moment, il faut passer à l'acte. Ou alors les commissions servent juste à ne pas passer à l'acte, sait-on jamais. Mais on sait que c'est des problèmes d'institution et malheureusement multiples, c'est-à-dire qu'il faudra guérir et on a eu le rapport sur l'école, hein, il faudra guérir les problèmes d'éducation, les problèmes d'employabilité, il faut guérir les institutions du marché du travail, on a des taux de retour à l'emploi des chômeurs les plus bas du monde, hein. Il faut guérir les institutions de recherche, c'est pas un problème d'argent, il n'y a pas tellement un problème d'argent l'ensemble de la recherche en France, c'est un problème de transformation de la recherche fondamentale en biens commercialisables. Et puis il y a un problème épouvantable qui est qu'on est aussi le record du monde de l'absence de croissance des PME. Et ça pour toutes les raisons mélangées, la fiscalité, leur mauvais financement, leur absence de lien avec les institutions publiques de recherche, la fiscalité personnelle des dirigeants. Il y a une statistique qui est terrifiante, c'est que 7 ans après leur création, les nouvelles entreprises françaises ont la taille du jour de leur création. Alors qu'aux États-Unis, elles ont triplé, enfin bon. Et donc, vous pouvez pas imaginer exporter, faire de la recherche, développer de nouveaux produits, gagner des marchés dans les pays émergents avec des petites entreprises. Donc il faut vraiment comprendre ça. Et donc on est dans l'institutionnel. L'euro, bah les Allemands, ils ont la même monnaie que nous. Les coûts salariaux, ils sont plus élevés au Japon ou en Suède qu'ici. Enfin, donc c'est pas la macroéconomie, c'est un mauvais fonctionnement de nos institutions qu'il faut guérir.
Et c'est ce qui permettrait de gagner ce point de croissance qui est un chiffre un peu magique dont on se souvient qu'il a été souvent avancé pendant la campagne présidentielle et que l'ensemble d'ailleurs des candidats proposaient d'aller chercher par les réformes.
Bah, oui, on est en plus dans une logique de vieillissement. Même si les statistiques sont un petit peu moins mauvaises maintenant qu'on le croyait, parce qu'on a tous, dans tous ces pays européens, plus d'immigration que ce qu'on pensait qu'on aurait. Mais avec le vieillissement, il faut surtout que la production par tête, ce qu'on appelle la productivité, croisse plus vite. En France, chaque salarié en moyenne produit à peu près 1,5% de plus chaque année que l'année précédente. Et donc, si vous regardez avec le vieillissement, ça veut dire qu'on n'est pas capable à long terme de faire plus de 1,5% de croissance. Les Américains savent faire 3, les Allemands 2,5, les Japonais 2,5. Donc effectivement, on est de l'ordre du point par an de handicap par rapport à ceux qui font bien.
2,25%, c'est un chiffre régulièrement avancé comme objectif par le gouvernement qui paraît considérablement abstrait pour les profanes, pour ceux qui regardent ça de temps en temps affiché à la une des journaux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Bah, d'abord, on le fera pas, et ensuite...
Le problème est réglé, mais en tout cas, ce chiffre magique...
Non, mais je crois qu'il faut aussi se dire, voilà, il y a une déformation structurelle de l'économie française qui est assez claire, on en parlait à l'instant, c'est qu'on se désindustrialise, pour dire les choses simplement. On n'est pas parmi les pays qui conservent leur industrie. Ces pays, c'est la Suède, le Japon, l'Allemagne... tout ceci a été caché par le boom de la construction et de l'immobilier. Aujourd'hui, on est en fin de cycle de l'immobilier, donc on se retrouve face à notre réalité, qui est qu'on devient une économie de services domestiques. Donc ce qui croît, c'est les loisirs, les services à la personne, etc. Une économie de services domestiques qui se désindustrialise et où la construction cache plus la misère, c'est pas une économie en croissance forte. Mais c'est un peu le même syndrome que ce qu'on découvre aujourd'hui sur les États-Unis.
Mais qu'est-ce que ça représente ? Au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre ? Qu'est-ce qu'il permet de mesurer, ce chiffre ?
Il permet juste de faire le budget de la façon qui a été prévue. C'est pour ça. Il y a aucun côté magique dans 2,25. Ça permet juste d'avoir un peu de marge de manœuvre budgétaire, ce qui est aussi un de nos gros problèmes. C'est que malheureusement, si on tombe un peu en dessous de 2%, ce qui est malheureusement probable, on n'aura pas d'argent public à dépenser pour des choses intelligentes. C'est-à-dire pour la recherche, l'université, les PME innovantes, enfin, l'argent public sera entièrement pris pour les choses de la vie de tous les jours de l'État. Donc il faut absolument aller au-dessus de 2 pour retrouver de la marge de manœuvre, pour faire des... On peut faire des choses sans argent public. Certaines réformes institutionnelles coûtent pas d'argent. Si vous changez la nature des contrats de travail, ça coûte pas d'argent public ou très peu. Mais on a besoin d'argent, on le sait bien, surtout dans l'université, dans l'école, bon, et pour aider les PME. Et cet argent, cette marge de manœuvre d'argent public, elle se déclenche qu'au-dessus de 2. C'est pour ça qu'on parle de ces chiffres à 2,25 ou à 2,5.
C'est ceux qui donnent de la liberté, c'est ceux qui permettent d'avoir une marge de manœuvre politique.
C'est ce qui permet d'avoir de la politique budgétaire autre que le truc stupide qui consiste juste à financer les actions générales et courantes de l'État, les salaires, etc. C'est ce qui permet d'avoir des projets pour faire de la croissance avec l'argent public, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis longtemps.
Patrick Artus, la crise financière de l'été, on l'avait présentée comme un crash boursier, théorique que vous aviez récusé d'ailleurs au moment où vous analysiez cette question cet été dans différents articles, à travers des interviews. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un mouvement, un choc qui est derrière nous ?
Ah, je crois pas, parce que à nouveau, qu'est-ce qui finalement fabrique cette crise? Vous le disiez tout à l'heure, c'est la crise du subprime, mais à nouveau, c'est la même chose que quand on en a parlé de la crise Internet il y a quelques années, et puis de la crise des caisses d'épargne américaines. C'est toujours la même chose. Alors les économistes ont un mot horrible pour ça, ils appellent ça les jeux de Ponzi. C'est quoi? C'est qu'on prête à quelqu'un dont on sait déjà qu'il ne pourra pas rembourser au moment où on lui prête. Alors on prie pour que cet emprunteur fasse une plus-value quelque part qui lui permettra de rembourser. Alors dans la crise de l'IT, on priait pour que les valeurs Internet continuent à monter, et là, on priait pour que les prix des maisons aux États-Unis continuent à monter, ce qui permettait de solvabiliser artificiellement tous ces malheureux Américains qui, en réalité, ne peuvent pas rembourser avec simplement leurs revenus. Donc, les banques ont cette responsabilité majeure d'avoir successivement prêté à des tonnes de gens dont on savait que, sauf gain en capital, qui normalement ne peut pas se produire tout le temps, ils ne pourraient pas rembourser leur crédit. Donc, il faut arrêter de prêter à des gens dont on sait qu'ils pourront pas rembourser, parce que c'est pas un service à leur rendre non plus. Il y a quand même, on est en train de saisir des centaines de milliers de maisons aux États-Unis. Ça, c'est une première responsabilité. La seconde responsabilité, je crois, c'est, alors je devrais pas dire ça étant banquier, mais c'est que la finance est devenue très compliquée. C'est-à-dire que le prix d'un actif financier peut ne plus avoir beaucoup de rapport avec le prix des actifs financiers élémentaires qui sont dedans. C'est-à-dire, vous prenez des petits bouts de Lego, faites un gros Lego, le gros Lego, son prix, c'est pas le prix des petits bouts. Alors ça, c'est ça qui est en train de se passer et qui est assez destructeur sur les marchés financiers. Il y a des choses qui ont perdu énormément de valeur sur les marchés financiers qui n'auraient pas dû. Et donc on s'aperçoit qu'on a fabriqué une finance qui s'est complètement distanciée des valeurs fondamentales des actifs. Une action, ça devrait représenter la valeur d'une entreprise, de ses profits. Et alors plus on va dans des actifs compliqués, plus ils sont, leur valeur n'a pas de rapport avec la valeur de l'actif sous-jacent.
Ça c'est nouveau, on le découvre, on a pourtant le sentiment que c'est un discours dominant lorsqu'on évoque la finance et sa déconnexion avec la valeur réelle des choses.
Oui, mais ça c'est un peu autre chose. Alors, prêter à des gens qui pourront pas rembourser, ça c'est une vieille tradition, donc ça c'est pas nouveau. Mais fabriquer des actifs financiers qui dont les prix vivent leur vie propre en fonction de l'offre et de la demande de ces actifs et pas en relation avec ce qu'ils devraient normalement représenter. Prenez un crédit immobilier en Europe, c'est pas du tout la même chose qu'un crédit au milieu aux États-Unis. Ben, ça vaut à peu près aussi peu cher aujourd'hui. C'est pas normal, quoi. Donc, ce fait que les prix de la finance de sur les marchés financiers ne reflètent plus le sous-jacent économique, ça c'est très très grave. Et puis la dernière chose qu'on peut dire sur la crise financière, c'est qu'on ne fait pas porter les risques sans doute aux bonnes personnes. La tendance des dernières années, c'était pour les banques en particulier de redistribuer les risques sur les marchés. Alors c'était encouragé par les banques centrales, surtout par la Réserve fédérale, qui a dit, si les risques sont portés par une multitude de petits investisseurs, c'est bien moins grave que si les risques sont tous dans les bilans des banques, et comme ça on va éviter des crises bancaires. Sauf que les petits investisseurs, on s'est aperçu qu'un, ils étaient fragiles, tous ces petits fonds qui sont en train d'exploser, ou même des particuliers, et deux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur ce qu'ils achetaient. Donc en fait, les banques refusent de faire leur travail, puisque d'abord la question c'est pourquoi on a des banques. On a des banques normalement parce qu'elles sont meilleures pour prêter que nous. Si vous prêtez une entreprise, vous savez pas, surtout s'il y en a beaucoup, une banque normalement elle est meilleure pour prêter que nous, donc c'est elle qui devrait porter le risque de l'emprunteur, sauf qu'elle veut pas, et donc je crois aussi il faut réfléchir à qui fait-on porter les risques. Et on a fait porter dans cette crise, on voit bien les risques, à des gens qui avaient en réalité pas du tout la capacité de porter des risques.
Pourquoi est-ce qu'on n'a rien vu venir? Monsieur le directeur de la recherche et des études chez Natixis.
Ah ben ça, je peux vous emmener des textes accablants qu'on a écrits il y a quelques années, que personne lisait. Non, mais on n'a rien vu venir. Ce qu'on a vu venir, c'est la crise de l'immobilier américain. Ça, c'était évident. On sait, le crédit plus populaire, c'est le crédit qui s'appelle 2,28. Prêter 2 ans à 2%, puis au bout de 2 ans, pendant 28 ans, il va rembourser à 8, quoi, ou à 9, etc. Donc tout le monde sait qu'au bout de 2 ans, il peut plus payer, sauf que tout le monde espère qu'au bout de 2 ans, sa maison aura pris suffisamment de valeur pour qu'il puisse se réendetter sur la valeur de sa maison pour payer les intérêts plus élevés. Du jour où les prix des maisons ont pu monter, ils ont tous fait faillite, et ça, on le savait. Ce qu'on n'a pas vu, je crois, c'est ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'il y aurait cette espèce de bizarrerie que tout d'un coup, plus personne ne voudrait de rien de risquer. C'est pas une crise de liquidité, il y a plein de liquidités, le problème c'est l'inverse. Et si on a le temps tout à l'heure, on dira peut-être un mot de la responsabilité des banques centrales. On croule sous la liquidité.
On va évidemment revenir parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Oui. Et là aussi, où les profanes ont besoin de vos lumières, monsieur le professeur d'économie.
Oui, pitié. Mais on croule sous la liquidité. Et donc, c'est pas une crise d'absence de liquidité, c'est une crise qui révèle que tout d'un coup, tout peut se figer dans la finance contemporaine, c'est-à-dire que les banques qui a plein d'argent refusent de prêter aux banques qui ont besoin de s'endetter, c'est quasi, mais peut-être ils en ont eux du subprime, alors je vais pas prendre le risque de leur prêter. Donc les banques qui peuvent plus se refinancer, s'endetter auprès des banques qui ont des liquidités à prêter, ben, sont obligées d'aller voir les banques centrales, d'où toutes les opérations de secours qu'on a vues dans les dernières semaines. Et les investisseurs disent, ben moi je veux plus rien acheter qui soit risqué, tant que j'ai pas, et donc je vais prêter mon argent au Trésor des États-Unis, qui est le seul emprunteur dans lequel je fais encore confiance. Et donc la finance s'arrête à ces moments-là. Et ça, on n'avait pas vu, je crois que personne n'avait prévu que la finance s'arrêterait. Par contre, ce qui a créé cette crise, je crois que tout le monde l'avait quand même vu raisonnablement, sauf les Américains qui continuent. En réalité, nous payons dans toutes ces crises l'énorme excès d'optimisme des Américains. Ils disent, bon, je suis ruiné, mais je m'endette quand même, quoi. Et ça finit quand même mal d'habitude.
À tout de suite, Patrick Artus, 8h05 sur France Culture. Le bonheur de retrouver Alain Gérard Slama pour sa chronique quotidienne. Bonjour Alain Gérard et bonne rentrée. Ce matin, hommage à Raymond Barre. Raymond Barre est l'ascension des experts, Alain Gérard.
Et le bonheur de vous retrouver, cher Ali, ainsi que nos chers auditeurs. Bonheur assombri par la disparition de Raymond Barre, qui m'a évidemment peiné, et qui trouve un écho particulier dans le climat politique actuel. Pour une première raison, qui était son conflit avec Jacques Chirac. Pendant la longue période où il a été Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, entre l'été 1976 et le printemps 1981, le débat qui opposait Barre à son prédécesseur à l'hôtel Matignon frappe par sa ressemblance avec celui qui, 35 ans après, a dressé Nicolas Sarkozy contre le même Chirac devenu l'hôte de l'Élysée. Les problèmes économiques ne sont certes plus comparables. Raymond Barre avait à lutter contre ce qu'on appelait alors la stagflation, qui combinait l'inflation et le recul de la croissance. Le professeur Barre plaidait alors pour la rigueur. Et face à lui, Chirac, flanqué de Charles Pasqua, depuis le siège du RPR qu'il venait de créer dans la tour Montparnasse, ne cessait de tonner contre cette politique économique pour, comme aujourd'hui Sarkozy, prôner une relance par la voie d'un double soutien à la production d'un côté et à la consommation de l'autre. Preuve, s'il en était besoin, que les immenses progrès accomplis depuis par les économistes dans l'élaboration de leurs modèles économiques n'ont guère stimulé leur imagination. À côté de ce rapprochement piquant entre deux situations historiques, une autre explication de l'intérêt tout particulier suscité par la disparition de Raymond Barre s'impose. C'est le fait que Valéry Giscard d'Estaing et justifier sa promotion à la tête du gouvernement par sa qualité de premier économiste de France. D'un côté, le compliment adressé avec de bonnes intentions, je suppose, était empoisonné. Il a enfermé Raymond Barre dans une image de grand commis. Et cela d'autant plus que Barre, proche de l'UDF, n'a jamais été membre d'aucun parti politique. Il a largement contribué à priver Barre du statut d'homme politique à part entière, voire d'homme d'État, qu'il méritait, et que Mitterrand, entre autres, avait su y reconnaître. Il en est résulté, de la part de cet homme de caractère, qui a été un de nos meilleurs premiers ministres, un sentiment de frustration qui peut contribuer à expliquer l'attitude de mépris qu'il a si souvent affichée et sans doute en grande partie affectée à l'égard des politiciens professionnels rejetés par lui dans l'enfer du microcosme. Mais d'un autre côté, l'accession d'un économiste à la tête du gouvernement a marqué un changement fondamental dans la vie politique française. Elle a ouvert l'ère de l'expert qui peu à peu s'est imposé dans les médias et qui a supplanté à la fois le politique, l'intellectuel et le technocrate en termes d'influence sur l'opinion et jusque dans la définition des grandes orientations de la vie publique. Barre a été aux côtés de VGE, l'inventeur de ce qu'on pourrait appeler la politique de la résultante. J'ai étudié le problème et il en résulte que, voici ce qu'il disait dans sa déclaration de politique générale de 1976, je cite, « J'ai présenté un diagnostic sans complaisance de la situation économique et j'en ai déduit les mesures à appliquer. Ce mode de raisonnement est celui qui prévalait jusqu'à une date récente et je me demande si heureusement, avec le retour de la politique, il n'est pas en train de reculer. »
C'était la chronique d'Alain Gérard Slama. Notre invité ce matin est l'économiste Patrick Artus. Une réaction, Patrick Artus, à cet hommage d'Alain Gérard Slama à Raymond Barre?
Oui, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on dit Alain Gérard. Je crois que, ce que nous a montré Barre sur l'économie, puis sur le fond, je dirais, sur l'économie, c'était quand même quelqu'un qui avait compris que l'inflation est destructrice et qu'il ne faut pas la laisser apparaître. L'inflation, et c'est la thèse qui est défendue aux États-Unis, c'est un impôt sur les plus fragiles, sur les gens qui ont des revenus qui sont pas indexés, sur les gens qui ont des petites retraites, sur les gens qui ont des prestations sociales. Et donc, quand nous, économistes, nous critiquons les banques centrales, il faut bien comprendre que nous ne suggérons pas que l'inflation revienne. Nous disons simplement que peut-être c'est pas une vraie menace en ce moment, mais les Barres avaient compris cet effet est absolument épouvantable du point de vue des inégalités de l'inflation. Et puis ensuite, il assumait totalement l'impopularité. Et donc ça pose la question de savoir si une bonne politique économique est nécessairement impopulaire, qui est une rude question, je crois, pour nous aujourd'hui.
Bonne question, on essaiera d'y répondre, Patrick Artus, juste après les informations. France Culture, il est 8h. 8h20 sur France Culture, l'invité des matins est aujourd'hui l'économiste Patrick Artus, membre du Conseil d'analyse économique et directeur de la recherche et des études chez Natixis. Plusieurs épisodes, plusieurs feuilletons cet été, Patrick Artus. Il y a eu celui de la crise financière née de l'immobilier aux États-Unis. Et puis il y a en France les nouveaux coups de pouce du gouvernement pour stimuler, je cite Christine Lagarde, l'économie. Là aussi, concentré sur l'immobilier. L'immobilier au secours de la croissance. Pourquoi focaliser toute l'attention et l'énergie sur ce sujet particulier dont on sait qu'il est curieusement créateur de richesses, curieusement créateur d'emplois?
Oui, bah, d'abord parce que ça a marché. Mais c'est justement c'est là que s'intervient la problématique aussi des banques centrales. Qu'est-ce qui s'est passé sans remonter très très loin dans le passé? Au début des années 2000, on a la crise Internet. Donc effondrement des cours boursiers, à la suite de ça, de très grosses difficultés des entreprises, effondrement de l'investissement et de l'emploi. Que font toutes les banques centrales pour limiter les dégâts? Elles passent à des politiques monétaires extrêmement agressives, donc on se retrouve avec des taux d'intérêt très bas, et aux États-Unis très vite et un petit peu plus lentement en Europe, on démarre la bulle immobilière. C'est-à-dire que tout le monde se met à s'endetter, c'est trop tentant, les banques prêtent de façon libérale, les entreprises s'endettent plus, donc il faut bien trouver de nouveaux clients, et les prix de l'immobilier se mettent à monter, puisque l'offre d'immobilier, elle peut pas augmenter aussi vite que la demande dans ces périodes-là. Donc, on a fabriqué de 2003 à il y a pas longtemps, à la début de cette année, un vrai soutien de l'économie qui s'est auto-alimenté avec des prix qui montent, ce qui permet aux gens de s'endetter plus facilement, ce qui donne une rentabilité à l'immobilier incroyablement plus élevée que les taux d'intérêt. Et donc, on a vraiment utilisé ça. Mais le vrai risque, c'est que c'est simplement quelque chose qui, d'abord, ne peut pas durer indéfiniment. La capacité à faire monter les prix s'arrête le jour où plus personne ne peut acheter de maison. Hein, et on voit qu'on n'en est pas loin, peut-être en France, et on est en plein dedans aux États-Unis. Et puis, ça cache la réalité. En fait, ça a permis de cacher la réalité des effets de la globalisation sur les pays qui souffrent.
Pourquoi ?
Bah, parce que on a cru qu'on pouvait encore avoir de la croissance sans faire grand-chose, malgré la globalisation. Hein, on dit, regardez, on peut avoir 3% de croissance, qu'est-ce que c'est ces histoires sur les émergents qui nous prennent nos emplois? C'est pas vrai, mais c'était uniquement dû à cet épisode qui est en fait simplement qui peut être un épisode de courte durée. On voit bien qu'on peut pas avoir à nouveau perpétuellement une situation où de moins en moins de gens ont la capacité d'acheter des appartements. Donc je crois pas qu'on puisse redémarrer maintenant, après ce qui s'est produit, dans la plupart des pays, une poussée immobilière. Alors la France est un tout petit peu différente. Parce que on a en France une situation qui est une situation d'exclusion du prêt. Il y a toute une partie des Français qui n'ont pas accès au prêt immobilier. C'est les Français qui ont des contrats de travail non permanents. Hein, donc, c'est les intérimaires, les CDD. On sait qu'ils ont de grandes difficultés à s'endetter. Si on débloquait ça, en France, on a peut-être la possibilité de refaire encore une marche d'accession à la propriété, puisque il y a assez peu de Français. Il y a que 65% des Français qui sont propriétaires de leur maison. C'est très faible. Mais pas en aidant. Il faudrait vraiment réfléchir à cette question de l'exclusion du crédit, quoi.
Faire de la France un pays de propriétaires, c'était l'un des slogans de campagne de Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle. Qu'est-ce que ça a comme sens, comme vocation? Est-ce que c'est uniquement par souci de protection des individus, des familles? Ou est-ce que ça a un sens économique?
Alors, je crois que d'abord, il y a une vraie demande. Hein. Il y a une vraie demande de propriété. Et il est vrai qu'on a beaucoup moins de propriétaires en France que dans les pays nordiques, qu'en Angleterre, qu'en Italie. Hein. Économiquement, ça a quand même, en termes aussi de préparation d'une société vieillissante, ça a du sens. Les retraités propriétaires, au moins, ne paient pas de loyer, quoi. Dans une situation où les systèmes de retraite seront moins généreux, forcément, dans le futur. Donc, c'est pas un objectif critiquable, je dirais. Mais ce qui est critiquable, peut-être, il faut faire attention, comme dans toute la politique économique, quelque chose, on n'a peut-être pas le temps de parler, mais à quelque chose qui est l'ennemi absolu de toute mesure de politique économique, c'est l'effet d'aubaine. C'est-à-dire, c'est dépenser de l'argent public pour aider quelque chose qui serait produit malgré tout. Hein, donc, et là, il y a un vrai danger. Donc, si on aide des gens déjà relativement aisés à acquérir une maison, s'ils avaient quand même acquis cette maison, ou si simplement le promoteur en profite pour monter les prix, il est bien documenté, par exemple, que le prêt à taux zéro a surtout fait monter les prix. Donc, le prêt a été confisqué, finalement, par les constructeurs.
C'est une politique injuste?
Bah, non, à nouveau, le danger, c'est l'effet d'aubaine. C'est comme la baisse des
Comme vous la décrivez vraiment comme injuste, en l'occurrence, si ça ne profite qu'aux riches.
Ça profite pas qu'aux riches. Non, c'est pas ça que je critique. Je critique le fait de, alors que l'argent public est rare, de le dépenser pour inciter les gens à faire quelque chose qu'ils auraient peut-être fait sans l'argent public. C'est la même critique que la plupart des économistes ont formulée sur la détaxation des heures supplémentaires. En disant, si ça ne détaxe que des heures supplémentaires qui auraient de toute façon été travaillées, ça dépense de l'argent public qui aura pas beaucoup d'effet sur l'économie. Donc, le vrai danger, c'est ça. Et à nouveau, l'analyse qui est faite, c'est pas tellement que les gens achètent pas parce que ils peuvent pas payer les intérêts, hein. C'est plutôt qu'il y a ce blocage maintenant entre ceux qui ont un contrat de travail qui fait que les banques sont sympathiques avec eux et les autres, quoi. Et c'est peut-être ce blocage-là qu'il faudrait traiter.
Comment ça s'explique que l'immobilier prenne une telle importance, pas seulement en France, pas seulement aux États-Unis, on l'a découvert au cours de la crise, mais partout dans le monde, que l'immobilier s'insère au cœur même de l'économie mondiale, alors qu'a priori, on pourrait penser que c'est une question proprement nationale, qu'elle concerne certains États et pas d'autres. On a l'impression que c'est devenu une préoccupation très largement partagée.
D'abord, on est rentré dans un monde où ce qui compte, c'est les prix des actifs. Parce que vous dites ça, mais les actions, par exemple, pour un Américain, c'est au moins aussi important. C'est-à-dire ce qui, et ça, c'est un peu le problème culturel de nos banques centrales. Quand on injecte de la monnaie dans l'économie, si on fait ça il y a 20 ans, on fait de l'inflation. Hein, puisque les gens veulent acheter des biens, il n'y en a pas assez. Bon, aujourd'hui, si vous voulez acheter une télévision de plus, il y a un Chinois qui sera content de la produire. Donc, quand vous injectez de la monnaie dans l'économie, ce qui monte, c'est les prix des actifs. Hein, c'est de là que vient ce rôle de l'immobilier et des autres actifs, hein, des marchés boursiers dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est l'immobilier qui reflète nos déséquilibres monétaires. Et puis ensuite, c'est assez facile. Ça marche. Si vous voulez, quand la réserve fédérale a un problème avec la croissance américaine, jusqu'au point de saturation où on est, on le disait à l'instant, mais tant qu'on n'avait pas saturé la capacité d'endettement des Américains, on baissait les taux et tout de suite ça marche. Tout de suite, les gens s'endettent, achètent des maisons, les prix des maisons montent, ils sont plus riches, donc ils se réendettent, ils achètent une maison plus grande. Donc en plus, c'est efficace. C'est l'étant à nouveau, un, c'est dangereux, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Et deux, on voit pas pourquoi les banques centrales s'occupent pas de ça et continuent à s'occuper du prix des biens, parce que c'est ça maintenant qui reflète les prix de l'immobilier, qui reflète les déséquilibres financiers. Et trois, c'est quand même à nouveau, dans la plupart des pays, fini. C'est-à-dire qu'on a usé cette corde jusqu'au bout, et si on veut faire de la croissance aujourd'hui, et si on réforme pas ce qui fait que notre industrie continue à décroître, cette ficelle-là, on pourra plus l'utiliser. Et là, on est un peu en peine d'en trouver une autre. Donc il y a quand même l'interprétation pessimiste que c'était une espèce de façon de se boucher les yeux face à la réalité de ce qu'on est capable de faire en termes de croissance vraiment.
Et c'est votre perspective, votre analyse?
Non, à nouveau, la France, à nouveau, il y a ce côté différent dont on évoque à l'instant, c'est qu'il y a vraiment une exclusion de la capacité à s'endetter, hein, et qui apparaît clairement dans les chiffres, et qui a été traité aux États-Unis d'ailleurs par la loi, puisque la loi impose aux banques américaines de traiter de façon homogène toutes les minorités, les différents quartiers dans les villes, etc. Mais quand même en France, on arrive au bout de la capacité à utiliser cette arme, parce que les prix sont trop élevés et que si on relance encore l'immobilier, les prix vont encore remonter, et donc on voit bien qu'on atteint le bout de cette arme-là. Alors la question qui se pose après, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire comme croissance si on se désindustrialise et si on peut plus utiliser l'immobilier comme cataplasme, quoi.
Bonne question, la réponse?
Un petit peu moins de deux.
Un petit peu moins de deux.
Comme la France, oui.
Et donc encore moins de marge, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous avez souvent parlé de ce rôle des banques centrales d'injecter des liquidités dans l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire, Patrick Artus?
Ouais, alors juste pour nos auditeurs qui
voilà, un peu de pédagogie, voilà. À 8h28.
Comment ça marche une banque centrale? Ça règle la quantité de liquidité de la façon suivante. C'est-à-dire, si elle juge que les gens ont pas assez d'actifs monétaires, elles viennent acheter d'autres actifs, en général des obligations d'État, aux gens qui les détiennent, et elles payent en liquidité, en monnaie, quoi, hein. Donc les gens, au lieu de détenir des obligations, se mettent à détenir de la monnaie. Et cette monnaie, ils vont essayer de l'utiliser, si c'est une banque en la prêtant, si c'est un individu en achetant des actions, en achetant de l'immobilier. Et si les banques centrales règlent la quantité de monnaie qui est en circulation dans les économies, en achetant ou en vendant d'autres actifs contre de la monnaie. Alors le problème qu'on a, il est double, c'est que, un, cette monnaie, à la différence du passé, cette monnaie circule. Donc vous pouvez, vous endetter en yens pour acheter votre maison. Si vous êtes à Londres, ça se fait très couramment, c'est que 90% des crédits immobiliers en Hongrie sont faits en yens ou en francs suisses. Donc la Banque centrale de Hongrie contrôle plus rien, mais c'est vrai aussi dans la zone euro. Donc la zone euro ne contrôle plus la quantité de liquidité, puisque la liquidité s'importe. Quoi. Vous pouvez faire des terres en yens, en n'importe quoi. Deuxièmement, il y a une source de création de liquidité formidable, qui est l'investissement des surplus des pays d'Asie, de la Chine, des pays producteurs de pétrole, qui achètent des actifs et qui payent en monnaie. Et donc, les banques centrales sont confrontées à cette irruption d'une montagne de liquidités en permanence, et qui, tant qu'elle sera là, fabriquera à répétition les crises que nous venons de voir. Parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, tant qu'on a plein de liquidités, les taux d'intérêt sont bas, et c'est très tentant de s'endetter pour acheter un actif. Alors, si c'est plus l'immobilier, enfin, le jeu entre économistes, c'est de dire, bon, l'immobilier, c'est fini, c'est quoi la prochaine bulle? Alors, vous dites, on va refaire les sociétés technologiques. Il y en a qui disent, non, ça va être à nouveau les émergents, mais on fera autre chose.
Histoire à suivre. C'est beaucoup plus clair, Patrick Artus. Il est 8h30 sur France Culture. Le bonheur de retrouver Olivier Duhamel. Bonjour Olivier, ce matin, des gauches.
Bonjour à tous, c'est donc la rentrée. Rentrée intellectuelle et politique hier pour la première université d'été des GRAC. Les GRAC, ce groupe d'intellectuels, de hauts fonctionnaires, d'entrepreneurs, qui se sont manifestés dans la campagne présidentielle en appelant à l'alliance entre socialistes et centristes, et persistent et signent aujourd'hui dans leur volonté de provoquer et transformer la gauche. La gauche ou les gauches ? L'enquête faite à cette occasion est publiée dans le Nouvel Observateur. Oui, dans le Nouvel Observateur, on ne parle pas que de Yasmina Reza ou de Cécilia, nous montre plutôt l'existence d'une multiplicité de gauches. Simplifions et distinguons deux gauches assez opposées. L'une proche des GRAC, justement, celle que l'on pourrait appeler libérale moderniste, et l'autre, au contraire, traditionnelle égalitariste. En fait, le choix des mots révèle souvent les préférences des idées. Si vous aimez les sociaux-démocrates, pour ne pas dire les sociaux-libéraux, vous opposerez nouvelle gauche et vieille gauche. Dans le cas contraire, vous opposerez centre-gauche et vraie gauche. Quoi qu'il en soit des mots, les rapports de force idéologiques sont clairs. Chez les Français, dans leur ensemble, les idées de la gauche libérale dominent. Et c'est normal. Elles reçoivent le renfort de la droite. Mais au sein du peuple de gauche, chez les sympathisants de la gauche, la gauche égalitariste l'emporte nettement. Les sympathisants de gauche approuvent aux deux tiers le SMIC à 1500 euros. Quoi qu'on leur ait dit de toutes parts, est de négatif à ce propos. Une nette majorité à gauche ne veut pas de renforcement de la sélection à l'université ou conteste l'instauration d'un bouclier fiscal à 50%. Pour lutter contre le chômage, 51% des sympathisants de gauche préfèrent renforcer la protection des salariés contre 31% qui accepterait plus de flexibilité dans le marché du travail. Comme souvent avec les sondages, on peut lire les chiffres de deux manières. Soit insister sur la domination de la gauche égalitaire, soit souligner ce tiers significatif qui n'adhère plus aux idées traditionnelles de la belle époque de l'union de la gauche. La vérité est que les choses sont encore plus compliquées. Les gens de gauche, et parfois au-delà, l'ensemble des Français, sont en proie à des hésitations et traversés par des contradictions. Ils ont conscience de la nécessité de réduire les déficits publics et l'affirment massivement, mais ils ne veulent pas réduire le nombre des fonctionnaires. Ils s'inquiètent des déficits sociaux, mais déplorent que l'on touche à la retraite à 60 ans. Ils acceptent l'économie de marché, mais jugent très négativement, plus négativement que partout ailleurs en Europe, la mondialisation. Autrement dit, il y a moins de gauches que des gauches, et moins des gauches qu'un ensemble parfois peu hétérogène, déboussolé, et qui a besoin qu'on lui donne quelques repères afin de réveiller l'espérance. Nombre des responsables socialistes n'en prennent pas encore le chemin, soit qu'ils aient choisi de s'éloigner un peu ou un temps, soit qu'ils estiment nécessaire de d'abord solder les comptes. Pour les règlements de comptes personnels, on peut compter sur eux. S'agissant des idées, celles à garder et reformuler, celles à inventer, c'est une autre histoire. Il est temps de commencer à l'écrire.
C'était la chronique d'Olivier Duhamel, 8h33, dernière partie des matins, toujours en compagnie de l'économiste Patrick Artus, Olivier Duhamel, Alain Gérard Slama, Marc Kravetz, que je salue, et Corinne Lepage, qui vient de rejoindre l'équipe des matins, sont là pour vous interroger et débattre avec vous, Patrick Artus. Une réaction à la chronique d'Olivier Duhamel. On se souvient du cercle des économistes qui, pendant la campagne présidentielle, essayait de formuler une alternative entre politique économique de droite, politique économique de gauche. Finalement, ce sera peut-être rester un vœu pieux, cette demande de clivage, cette envie de montrer qu'il y a des alternatives en la matière.
On avait fait un effort, on avait eu du mal, hein, parce que effectivement la tentation avait été grande de faire un livre qui aurait été la gauche ringarde et la droite moderne, et on ne voulait pas faire ça. Donc on a essayé quand même de faire un livre où c'était la gauche moderne et la droite moderne.
Mais on ouais, a, c'était une belle contribution au débat public.
Mais on trouve des vraies questions. Je vais pas prendre 30 exemples, mais prenez un exemple qui est la redistribution. Enfin, la droite et la gauche disent qu'il faut redistribuer au profit des plus pauvres, etc. La question, c'est, on peut le faire de façon très très différente. Alors pour la gauche, on voit bien ce que vous venez de dire, la redistribution passe toujours par la hausse des bas salaires. Et pour la droite, la redistribution, c'est d'autres politiques publiques, c'est la prime à l'emploi, c'est autre chose que de le faire par les entreprises, par exemple. Donc il reste des points où on peut trancher sur une vision politique et qui sont économiquement on peut débattre, hein, mais les qui peuvent se défendre tous les deux économiquement. Donc c'est la vision politique reste importante. La santé. Et on peut avoir une façon de voir la santé qui est finalement, pour l'instant, ça s'est pas vu dans
on
la
peut,
pratique.
On pourrait, Patrick Artus, mais on n'a pas.
Non, parce que à nouveau la chronique est très éclairante, parce que il faudrait aussi essayer de faire vraiment l'inventaire des marges de manœuvre. C'est-à-dire quand on a entendu dire pendant la campagne qu'on allait faire ceci ou cela, la taxation des entreprises, à la différencier la taxation selon que les profits étaient investis ou redistribués, enfin je veux dire personne de raisonnable ne peut dire ça puisqu'on sait qu'un siège social ça se met à Bruxelles en une demi-heure, quoi. C'est-à-dire donc faut aussi faire l'inventaire de là où il reste vraiment un degré de liberté.
Première question de Corinne Lepage qui était justement partie prenante de cette campagne.
Monsieur Hart, j'ai une question un peu de fond à vous poser. Vous avez dit tout à l'heure que, mais sans insister, il y avait un fossé qui se creusait de plus en plus entre la création de richesses financières et la création de richesses matérielles. Et moi, c'est une question que je trouve tout à fait préoccupante. On peut considérer qu'il est normal que les liquidités représentent 10 fois, grosso modo, et encore 10 fois, c'est beaucoup, ce que nous créons en richesse chaque année, en termes physiques, j'entends. Mais là, on est dans des chiffres qui sont infiniment plus importants, 60, 80 fois. Est-ce que vous pensez que c'est un système pérenne, durable ? Autrement dit, est-ce que vous pensez qu'il y a un rebondissement possible dans d'autres secteurs d'activité économique ? Je ne parle pas de la France, je parle au niveau planétaire, bien entendu, qui permettent de maintenir un tel poids de la finance, finalement, qui est à l'origine de beaucoup de nos problèmes.
Patrick Artus.
Oui, alors je crois qu'il y a deux niveaux. Enfin, cette question est très importante et il y a deux endroits où cette question se pose. Il y a d'abord, je dirais, dans la façon de gérer les entreprises. On peut gérer les entreprises avec des objectifs plus ou moins financiers. Quand vous parlez aux dirigeants d'entreprises chinoises, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs de gestion que les dirigeants d'entreprises anglo-saxonnes. Que pour un Chinois, il faut contribuer à la croissance du pays, à l'obtention des technologies. Donc il y a des objectifs plus réels, sans doute, que dans le monde anglo-saxon. Donc ça, c'est le premier niveau. Alors deuxième niveau, je crois que le cœur de votre question, c'est effectivement, on a vu de plus en plus que la taille des marchés financiers par rapport aux actifs qu'ils représentaient venait considérable. Alors c'est pas vrai pour les actifs financiers les plus simples. Prenez les actions. Les actions, ça représente le capital des entreprises et ni plus ni moins, quoi. Mais c'est vrai pour tout ce qu'on appelle les produits dérivés, qui sont de plus en plus gros par rapport aux actifs sous-jacents. Alors je crois aussi que ça, c'est quelque chose auquel il va falloir qu'on réfléchisse si on veut pas fabriquer à nouveau la catastrophe suivante. C'est de dire, normalement, les produits dérivés, c'est des produits d'assurance. Une entreprise qui a fait un crédit à une entreprise, elle va s'assurer contre le risque que cette entreprise aille mal, fasse faillite, en allant sur des marchés de produits dérivés. Et un produit d'assurance, ça a un rôle tout à fait positif, hein, bien entendu. Sauf que ces produits ont été détournés de leur rôle. Aujourd'hui, ce ne sont plus des produits d'assurance, ce sont des produits pour investisseurs. Alors, juste une histoire qui est presque vraie. Hein, on fabrique des obligations qui sont liées au cyclone, etc. C'est pas grave, mais ils sont par exemple liés au risque automobile. Et donc, si supposer que cette obligation se mette à avoir une vie propre, en fonction de la demande.
Qu'est-ce que ça veut dire, une obligation?
Ça veut dire qu'un assureur qui assure des voitures revend sur le marché une obligation, et si le risque automobile devient plus... Enfin, s'il y a plus d'accidents que ce qui avait été anticipé, le prix de cette obligation baisse, donc pour lui, c'est une façon de se décharger du risque automobile sur les investisseurs, sur les marchés. Normalement, le risque automobile, c'est un truc réel. C'est combien il y a de gens qui sont rentrés les uns dans les autres. Hein, donc oui. Sauf que si vous fabriquez une finance déconnectée de la réalité, cette obligation, par exemple, va avoir son prix qui chute si plus personne veut l'acheter pour une raison quelconque, comme on l'a vu ces jours-ci sur les marchés. Et l'assureur, du coup, va monter les primes d'accident. Hein, et donc vous paierez plus cher votre assurance auto, pas parce que vous avez plus d'accidents, mais parce que les marchés financiers veulent plus acheter les obligations liées aux assurances auto. C'est exactement ce qui s'est passé sur les entreprises depuis 3 semaines, 1 mois, où les entreprises vont payer plus cher leurs dettes simplement parce que les produits structurés de la dette trouvent plus d'acheteurs. Donc l'inversion de la causalité, je crois que c'est pas tellement l'effet de taille pur. Hein, il y a des marchés financiers énormes où il n'y a pas ce problème d'inversion de la causalité, c'est-à-dire que c'est plus l'économie réelle qui fabrique le prix des actifs financiers, c'est le prix des actifs financiers qui fabrique le prix de l'assurance. En gros, dans l'économie réelle. Et là, c'est très, très dangereux quand la causalité est dans l'autre sens.
Et quand vous dites il va falloir qu'on réfléchisse, c'est qui on ?
Bah, normalement, nous avons des gens qui sont payés pour faire ça. Ça s'appelle les banques centrales. Hein. Et donc, peut-être qu'au lieu de s'exciter pour savoir si l'inflation sera de 1,75 ou de 1,80, il faudrait peut-être qu'ils regardent ce genre de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans les développements récents de la finance ?
Olivier Duhamel.
Je vous suis très clairement jusqu'à ce dernier point. D'abord, on a pour la première fois une explication à peu près claire de ce que c'est que la financiarisation, parce qu'on entend tout le temps ce mot, sans jamais savoir ce qu'on met derrière. Là, on vient d'expliquer clairement ce qu'on met derrière. Mais derrière le fait que l'on joue avec des finances pour d'autres finances sur d'autres finances, indépendamment de l'économie réelle de départ, et que donc ça inverse les choses, c'est plus l'économie réelle qui fait la finance, mais c'est la finance qui agit sur l'économie réelle en rien ou rien. Alors, Ali Badou vous pose la question, qui ont ? Et là, vous répondez les banques centrales. Attendez. C'est pas les banques centrales à elles seules qui peuvent changer cela. Ou si vous préférez, je pose ma question en deux temps. Ça rappellera des souvenirs. Premier aspect, c'est depuis quand ça se passe comme ça ? Dire pourquoi ça, après tout, c'est pas passé comme ça dans toute l'histoire du capitalisme. On voit bien l'histoire, ça devient un truc de l'argent pour l'argent et une sorte de dérapage de type casino, quoi. C'est-à-dire on n'est plus dans le réel, on est dans le jeu au blackjack et truc. Allez,
non, j'ai pas dit ça. Hein.
Non, vous avez pas dit ça, mais ça ressemble un peu à ça. Ça devient du jeu de la finance sur la finance, indépendamment de ce qu'il avait fondé au départ. La raison pour laquelle sur votre histoire du risque automobile qui devient quelque chose qui a sa propre vie en lui-même, indépendamment de la réalité automobile, c'est bien pour gagner plus d'argent. C'est bien ça l'idée. Les gens qui jouent avec ça, c'est pour faire plus de profit.
Oui, si vous voulez, mais
c'est
pas vraiment du casino. Qu'est-ce qui s'est passé, je crois, et pourquoi c'est récent, hein, je veux dire, ces développements-là.
Mais pourquoi c'est récent et qui pourrait changer ça?
Je crois que c'est le choc des taux d'intérêt bas. C'est-à-dire, quand les taux d'intérêt étaient élevés dans les années 80, etc., ben, tout le monde était content avec les taux d'intérêt sur les produits financiers simples. Aujourd'hui, on vit dans un environnement où il n'y a pas d'inflation, donc les taux d'intérêt sont bas. Et donc, dans la financiarisation, il y a eu d'abord quoi ? Il y a eu des exigences de rentabilité du capital des entreprises incroyablement supérieures au taux d'intérêt, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Les entreprises européennes ou américaines ont un rendement du capital qui est de 16 ou 17% par an, alors que les États s'endettent entre 4 et 5%. Et donc, déjà, là, on a eu une première distorsion.
Hein, qui, là aussi, était quelque chose de nouveau dans le capitalisme. Il y a 30 ans, on ne demandait pas de chiffres.
Non.
Pourquoi on est passé à ça ?
Alors, notre réflexion là-dessus, j'ai fait un livre là-dessus dont on avait déjà parlé ici, c'est l'intensification de la concurrence entre professionnels de la finance. Quand vous mettez en concurrence des gérants de retraite, par exemple, celui qui fait plus de performances que l'autre va gagner des parts de marché dans la gestion de l'argent des retraites, et donc évidemment, il est tenté d'aller chercher, d'exiger plus de rentabilité, mais l'autre va faire pareil. Donc l'intensification de la concurrence entre gérants de fortune, quoi, gérants d'épargne, a fabriqué cette exigence de rentabilité élevée. Alors ça, c'est une première financiarisation qui a aussi des effets très négatifs, parce que quand on exige 16% du rendement du capital, on a du mal à imaginer qu'on va faire des projets à long terme. Une molécule pharmaceutique nouvelle, ça met 5 ans à développer. 1 euro dans 5 ans actualisé à 16%, ça vaut pas grand-chose, quoi. Hein, donc, et puis deuxième financiarisation, alors c'est celle que vous évoquez. Bah, je sais pas si c'est vraiment du casino. Je crois que c'est ce qui est grave, c'est quand à nouveau les conditions de l'offre et la demande sur un marché. Les assureurs qui vendent en ce moment un certain nombre d'actifs, c'est pas rendu casino, c'est qu'ils ont peur. Hein, donc c'est une réaction, ça peut arriver, quoi. Ils ont peur de la crise américaine, ils savent que c'est pas fini. Enfin, donc ils vendent, donc les prix chutent, et du coup ça remonte sur l'économie réelle. Et donc effectivement, l'économie réelle devient dépendante des conditions sur les marchés financiers.
C'est plus clair, Olivier ?
Oui, c'est pas plus réjouissant, parce qu'on voit pas que, on voit pas, mais même vous rajoutez la première, vous rajoutez l'histoire à deux chiffres, on voit pas qui va changer ça et comment.
Il y a deux pistes. Hein. Alors la première piste, c'est le gigantesque crack. Hein, c'est-à-dire que, parce que, de toute façon, les choses étant ce qu'elles sont, si vous voulez avoir une entreprise qui fait 20% de résultats par an, alors soit si vous êtes dans un secteur extrêmement porteur, extrêmement nouveau, vous avez trouvé le produit du siècle, enfin ça peut arriver. Mais c'est pas ça qui se passe, puisque ça serait quelques entreprises. C'est toutes, hein, que vous prenez l'ensemble des entreprises cotées aux États-Unis, elles payent 18% par an. L'État américain s'endette à 5, donc ça veut dire qu'il y a 13% de risque quelque part. C'est un vrai risque. Donc c'est bien que les entreprises se sont endettées, ont fait des acquisitions, enfin bon. Et donc, soit ces risques se réalisent tous le même jour et on fait un gigantesque krach financier planétaire, soit la finance elle-même comprend que c'est pas dans son intérêt de faire ça. Et par exemple, les gens
mais
qui
c'est
gèrent...
justement toujours cette question de la finance.
Non, mais c'est la finance, c'est pas une seule personne. Alors, aux États-Unis, on commence à voir, par exemple, regardez ce qui se passe avec les fonds de pension publics. Les fonds de pension publics commencent à dire aux dirigeants d'entreprise, vos rémunérations sont scandaleuses, arrêtez de faire des acquisitions qui ont pas de sens. Enfin, donc, il y a des gens responsables, quand même, qui aussi gèrent de l'argent.
Alain Gérard Slamin.
Oui, actuellement, on nous dit beaucoup que la continuation des réformes libérales dans l'économie française est tributaire du taux de croissance. Et j'ai lu récemment Laurence Parisot dire, mais non, n'inversons pas les termes des facteurs. Commençons par faire les réformes qui permettront de relancer la croissance, plutôt que de nous obséder sur un taux de croissance dont, de toute manière, on ne pèsera et ne mesurera les effets que pour le budget de 2008 ou de 2009. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat de l'œuf et de la poule? Enfin, qu'est-ce qu'il faut privilégier? La référence à la croissance, dont l'impact sur l'opinion est évidemment assez lourd, parce que c'est un peu décourageant si on nous dit, voilà, on croyait qu'on avait une conjoncture favorable, elle est défavorable, on peut plus rien faire. Bon, ou bien est-ce qu'on peut continuer à faire et n'est-ce pas déterminant finalement plus que le taux de croissance lui-même de la relance de l'économie nationale.
Patrick Artus.
Oui, non, quand on regarde, et on en parlait tout à l'heure, une des causes absolument centrales de nos problèmes, c'est l'absence de croissance des PME. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour relancer la croissance des PME qui coûtent pas d'argent public. C'est-à-dire si vous faites une réforme fiscale qui baisse les charges sociales des PME, en reportant sur d'autres impôts, bien sûr, bah vous allez améliorer les choses sans dépenser de l'argent public. Le Small Business Act, c'est simplement donner une partie des contrats publics aux PME, ça ne veut pas dire avoir plus de contrats publics. Enfin, donc, il y a quand même beaucoup de choses qui permettent de débloquer, d'avoir plus de croissance et plus de dynamisme sans dépenser d'argent. Alors, malheureusement, il y a aussi des endroits où il faut mettre de l'argent. On sait bien, l'université... ce qui a été fait sur le crédit d'impôt recherche, je crois, hein, la semaine dernière, qui est une bonne mesure. Et donc, là, on a ce problème qu'effectivement, soit on s'abstrait totalement des contraintes européennes, on arrive à passer le message que ça, c'est des déficits qui sont pas liés aux dépenses courantes de l'État, mais c'est des déficits qui fabriqueront de la croissance plus tard, donc on a le droit de les faire. Donc c'est tout le débat sur la réforme du pacte de stabilité, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment un bon investissement public? Alors on sait que ça se heurte à une forte réticence de la Commission européenne, mais c'est un débat qui est intéressant, quoi. Dans les dépenses publiques, il y a peut-être des bouts qu'il faut traiter de façon différente si ces bouts fabriquent vraiment de la croissance. Reste à le démontrer, hein. Mais je crois en tout cas que ça serait une erreur absolument fatale de dire bah on a 1,8 de croissance cette année et pas de 25, donc on arrête tout, faut pas faire ça. Et nous, il y a plein de choses qu'on peut faire qui coûtent rien. C'est pas parce qu'on y a pas de manque d'argent dans l'éducation primaire ou secondaire en France, on a des pays qui dépensent le plus d'argent. Donc les problèmes dont on parlait tout à l'heure, là c'est pas des problèmes liés à l'argent.
Corinne Lepage.
Oui, je voudrais revenir un instant. Vous nous avez dit quelque chose de très intéressant en parlant des entreprises chinoises. Vous avez dit elles intègrent dans leurs objectifs autre chose que forcément faire 15% de profitabilité pour leurs actionnaires chaque année. La question que je me pose est celle de savoir si une évolution dans les objectifs des entreprises européennes, je ne parle pas au niveau français parce qu'il faut quand même penser européen, serait quelque chose de concevable, c'est-à-dire de différenciant par rapport aux objectifs américains. Parce que finalement, ce qui est à la source de beaucoup de nos problèmes. C'est effectivement cette obligation forcenée d'arriver à des taux de profit à deux chiffres qui ont des conséquences en termes de concentration, en termes d'emploi, en termes d'orientation qui sont tout à fait considérables. Donc ma question elle est là, est-ce qu'on pourrait penser autre chose et est-ce que vous pensez que la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, est quelque chose qui peut se développer, qui peut être un contributeur à la solution?
Patrick Artus.
Alors, il y a clairement plusieurs formes de capitalisme, donc c'est ce que je voulais dire. Non, le capitalisme chinois, qui est un capitalisme semi-étatique, capitalisme indien, qui est un capitalisme familial fermé, ça fonctionne pas comme le capitalisme anglo-saxon. Malheureusement, en Europe, je crois pas du tout qu'on ait la capacité de fabriquer un capitalisme européen aujourd'hui. Il y a 20 ans, on avait tous ces débats sur le capitalisme rhénan. Le capitalisme rhénan, il est complètement mort. Et l'Allemagne est passée au modèle de capitalisme anglo-saxon à peu près... Et même d'ailleurs, je dirais, de façon plus violente que la France et plus brutale. Comment éviter ça? On a, si vous prenez le CAC 40, plus de 50% du capital appartient à des actionnaires anglo-saxons. Donc on a forcément... Alors ici aussi, il faut se rendre compte qu'on a fait quelque chose auquel on peut plus rien aujourd'hui. C'est au moment où on a privatisé, ouvert le capital des entreprises, on l'a fait alors qu'on savait qu'on n'avait pas d'investisseurs domestiques en actions. Parce qu'on n'avait pas de fonds de pension, les assureurs français n'aiment pas les actions, enfin, on peut en portefeuille. Donc on savait, en même temps qu'on ouvrait le capital des entreprises, qu'on le donnait, les entreprises, aux actionnaires des pays où il y a une base d'épargne en actions forte, c'est-à-dire... En Europe, c'est juste les Pays-Bas et quelques petits pays, donc c'est l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, c'est ce qui est arrivé. Donc je crois pas du tout à la capacité de créer un capitalisme européen ayant ses propres règles.
Marc Kravetz.
Moi, je voudrais je vais vous poser une question courte qui appelle une réponse longue, il va falloir malgré tout vous soyez court.
Oui.
Je voudrais revenir moi à la question que vous posez, et dans sa chronique, enfin, pas dans sa chronique, mais qui induisait sa chronique, et ensuite Olivier Duhamel, c'est, il y a tout de même un moment où on se demande quoi face à une gauche de type archaïque qui dirait l'État peut tout, l'État fait tout, redistribue ce qu'il peut, et après nous le déluge. D'accord, ça ne marche pas. Mais si je vous écoute bien, dans les solutions libérales auxquelles l'Europe, elle, est confrontée, bah, la Chine c'est la Chine et l'Inde c'est l'Inde, l'Europe, en gros, on laisse faire, mais on laisse faire jusqu'à quel seuil de catastrophe? Je crois que c'est Michel Rocard qui disait dans un entretien récent, l'Observateur peut-être, que ce type de capitalisme conduisait, cette finance, conduisait à la catastrophe. On peut pas traiter Michel Rocard, je crois, d'archaïque de gauche. Donc, quel est votre pronostic?
Patrick Artus.
Ça déjà très, enfin, on est, faut quand même réaliser que même si on a l'air d'aller bien, depuis le début des années 90, on le disait tout au début, ce matin, on a une crise tous les 3 ans. Hein, depuis la crise des caisses d'épargne américaines, on a eu le Mexique, on a eu les LTCM, on a eu les émergents, on a eu l'Haïti, là on a l'immobilier. Donc c'est quand même un système qui fabrique une crise financière tous les 3 ou 4 ans. Pourquoi il n'a pas explosé déjà? Parce que les banques centrales ont été complices de ces... C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'empêcher les crises financières, elles sauvent les pays une fois que les crises se sont produites. Et du coup, elles fabriquent la crise d'après. Puisque pour empêcher que les crises aient des catastrophes épouvantables, elles inondent le monde de liquidités quand les crises se sont produites. Donc pour l'instant, ça a tenu, malgré cette répétition de crise, avec poussé à bout de bras par la volonté, en particulier de la Réserve fédérale, d'ailleurs là qui est plus critiquable sans doute que la Banque centrale européenne, la volonté de faire que même quand une fois les crises produites, il se passe rien de méchant en plus. Et donc je crois que cette fois-ci encore, on va voir le président de la Banque centrale, la Réserve fédérale, il a commencé à le faire, injecter des liquidités, baisser les taux d'intérêt, et dire faut pas du tout que la crise de l'immobilier se développe, faut empêcher qu'elle ralentisse la croissance, qu'elle détruise les emplois, et donc on va fabriquer la crise d'après. Donc
que vous feriez pareil,
Olivier Duhamel.
Non, je ferais pas pareil.
Vous iriez au crack, la catastrophe généralisée, chômage, dépression,
c'est pas ça. Non, justement pas. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets, qui est les mesures d'urgence. On sait qu'il faut pas qu'il y ait de faillite bancaire. Faillite bancaire, c'est l'horreur absolue. C'est-à-dire, on sait qu'on s'en remet difficilement. Donc on empêche les faillites bancaires. On n'est pas obligé après de repousser la machine. Alors malheureusement, c'est pour cette question, est-ce qu'une bonne politique économique est impopulaire? Aujourd'hui, il me semble qu'il va falloir accepter qu'on va pas faire repartir les machines économiques après la crise de l'immobilier, simplement en cédant de la bulle suivante. Et Greenspan l'avait dit d'ailleurs, il l'a presque dit en 2001 ou en 2002, il dit je fabrique une bulle immobilière pour compenser l'explosion de la bulle boursière. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire là? On va fabriquer une bulle boursière pour composer l'explosion de la bulle immobilière? Il y a un risque, oui. Mais ça finira le jour où la bulle suivante voudra pas repartir, quoi, parce que finira par quand même peut-être à un certain moment les banquiers deviendront plus prudents, les investisseurs deviendront plus prudents. Mais pour l'instant, en réalité, tout ceci a commencé il y a presque 20 ans. il y a plus de 15 ans en tout cas, et c'est par un laxisme de plus en plus grand des politiques monétaires qu'on a évité la catastrophe finale.
Ça a un sens de vouloir moraliser le capitalisme. On a entendu le président de la République l'annoncer, le réclamer cet été. On se souvient des discussions autour du G7, de la plus grande régulation des fonds spéculatifs. Ça a un sens pour vous ?
Là, c'est pas. Enfin, il y a moralisation. Enfin, là, c'est pas de la moralisation. Je crois que c'est des mesures de bon sens. Je veux dire, il faut quand même accepter que la façon dont il fonctionne, avec trop d'endettement donné à des gens qui peuvent pas le supporter, avec une stabilité, des systèmes qui ne marchent que si les prix des actifs ont le beau goût de continuer à monter, qui s'arrêtent dès qu'ils arrêtent de monter, avec trop de liquidités, avec des déséquilibres de balance commerciale qui fabriquent ces liquidités parce que les pays excédentaires la génèrent. C'est juste du bon sens de dire qu'il va falloir arrêter ça. Donc c'est pas de la moralisation, c'est veux dire faut arrêter ça parce que ça finira dans un désastre complet.
Mais à ceci près que le bon sens n'a pas l'air d'être la chose du monde la mieux partagée pour le coup.
Bah parce que c'est tentant de gagner de l'argent et donc si gagner de l'argent va dans le sens opposé du bon sens pour l'instant et donc c'est pour ça que les pessimistes disent bon là c'est pas grave parce que de toute façon ils vont nous fabriquer la bulle d'après et donc à nouveau on sortira de l'éclatement de la bulle immobilière par la bulle suivante qui rendra tout le monde riche à nouveau quoi.
La maudite soif de l'or. Aori Sacra Fames, merci infiniment Patrick Artus de nous avoir rendu visite. Il est 9h05 sur France Culture. On retrouve les rendez-vous habituels et le portrait du jour, Marc Kravetz.